La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Bonjour. On se retrouve pour lire une énigme brochure. Aujourd'hui, je suis tout seul parce que j'avais envie de lire cette brochure tout seul. La brochure, elle s'appelle « Désobéir ». Ce sont des extraits écrits pour Maurice Vlaminck dans les 1936. Les maximes qui suivent semblent sorties tout droit des théories anti-industrielles les plus récentes. En cette année, 1936, Maurice Vlaminck ne cède en aucune manière à l'enthousiasme soulevé pour les fronts populaires. Pour lui, l'ouvrier syndiqué est aussi méprisable que les bourgeois auxquels il essaye de rassembler. Connu pour sa peinture, représentant du fauvisme très acerbe envers le cubisme ou le surréalisme, il fut relégué aux oubliettes de l'histoire à cause d'un voyage en Allemagne sous l'occupation. Il n'est pas faux que sa théorie peut paraître parfois réactionnaire, en magnifiant une figure paysanne qui sera plus tard le fond des commerces dans certaines pétaines. Ceci dit, ces lignes ne sont pas écrites en 1945, mais bien en 1936. Et ses références politiques sont celles du libertaire, au tournant du siècle auquel il collabora. Les progrès, c'est la vieillesse et la mort déguisées en avenir. Détruire les machines et travailler pour la paix, ou continuer à faire tourner les machines pour la guerre. Les hôpitaux? Quelle hypocrisie, quel mensonge. Avez-vous l'intention de secourir efficacement ceux qui en ont besoin? Les vrais pauvres, ceux qui se couchent sans manger et dont les enfants n'ont pas de souliers aux pieds ni de chemises sur le dos? La pauvre môme qui, s'étant fait mettre enceinte, ne sait pas comment elle va faire pour garder son petit? Est-ce là que vous voulez faire? Un hôpital, c'est trop facile et ça ne sert pas aux pauvres. Bâtir un hôpital, il y aura l'achat du terrain, la commission à l'intermédiaire, les pourcentages de l'architecte, les bénéfices des entrepreneurs, ensuite les fixes du directeur et du sous-directeur, celui de l'économe, du médecin, du chirurgien, les salaires des cuisiniers, des infirmières, des surveillantes, du concierge, les congés payés. Enfin, toutes les charges comportent l'entretien d'un hôpital. Est-ce pour faire vivre tout ce monde-là ou pour aider véritablement les pauvres que vous voulez distribuer votre argent? Des maisons confortables, des escaliers qui montent tout seuls, eau, gaz, électricité à tous les étages, water, tout à l'égout, métro, auto, on n'a plus rien à faire. Tout marche tout seul, même la pensée. On a la TSF et le journal. Cela évite de réfléchir et on sait d'avance ce que l'on a à dire. On a une opinion toute faite, toute calibrée, comme l'étoffe qu'on vend au maître. On est nourri avant d'avoir mangé. On arrive sans avoir marché. On a de l'amour sans les peines ni le plaisir d'aimer. On n'a qu'à payer pour rire. On ne sait même plus pleurer. Et malgré cette vie mécanique, électrique, on a peur de mourir et on parle de bonheur. Je vis dans la solitude totale, loin de la ville. Loin d'une vie truquée, peuplée de combines, rongée par la passion de l'argent et ses hypocrites laideurs. À la campagne, il n'y a pas d'indigents. Il n'y a que de simples gens. Il y a des masures, mais pas des taudis. Je pense aux années de ma jeunesse, passé dans la sombre et triste banlieue de Paris. Paysage de cheminées d'usine, de petits champs garnis de petits treillages où brillent les culs des bouteilles, les débris de porcelaine. Je revois la villa des retraités et des petits commerçants, bâtie au prix des ventes aux 30 ans d'une application sédentaire, ventes aux 30 ans d'emprisonnement, sans espace, sans lumière. À quoi bon parler d'hygiène, d'augmentation de la durée de la vie humaine quand une guerre moderne, tenant la place des choléras et des pestes d'antan, fait disparaître des millions d'êtres. Je monte dans les rapides de Bruxelles, je m'installe et coupe les premières pages du petit Mexicain d'Aldous Huxley. Le train démarre. Frontière. Arrêt. Un douanier belge à la casquette chargée des galons me demande mes papiers. Je n'ai sur moi aucun papier. Pour moi, la Belgique, c'est mon pays. Un douanier, encore plus galonné, intrigué par ses colloques, s'arrête devant moi. On les met au courant. Il lit les lettres. Les deux hommes parlementent un instant. Ils sont évidemment persuadés de ma bonne foi. Ils redoutent une tuile. On va vous laisser passer, dit celui qui paraissait le chef. Mais une autre fois, sais-tu, il faudra avoir des papiers. Il est curieux de remarquer que la plupart des Français qui ont voté pour le Front Populaire, SFIO, Parti Communiste, ont tous dans la poche un billet de la Loterie Nationale. Ne sera-ce qu'un dixième ou un vingtième des billets, dans l'espoir de devenir millionnaire? Qu'y a-t-il de plus monotone, de plus triste à voir qu'une pépinière où se trouvent alignés des arbres de même essence, plantés en fil parallèle? Mais quelle beauté! Quelle grandeur émane de la forêt! L'implacable injustice qui s'en dégage exprime une vérité souveraine. Vers 1896, j'ai collaboré au journal Les Libertaires. Les Libertaires avaient ses bureaux rue d'Orcel. Il consistait en une simple baraque de bois élevée dans le fond d'une cour, derrière un immeuble noir et pauvre. On y rencontrait de ce vieux militant dont les bourgeois parlaient comme des monstres assoiffés de sang et qu'ils décrivaient comme des bandits. 30 ans plus tard, ces anarchistes devinrent, pour les mêmes bourgeois, les bolcheviques au couteau entre les dents. Aujourd'hui, les camarades des temps héroïques, communistes parisiens en veston, apprirent ces invalides sur les banquettes du Parlement bourgeois. À l'époque des Ravachol, des Mille-Henri, des Vaillant, le journal Les Libertaires était le seul organe qui osa batailler contre le capitalisme. En guise de récompense et de salaire, ce rédacteur était toujours sûr découpé de quelques mois de prison. Certains soirs, nous nous réunissions autour d'une tasse de thé qu'offrait Matta, principal rédacteur et gérant du journal. On palabrait tard dans la nuit, et quand nous sortions dans la rue, les flics rôdaient. Les frères d'Henri, Fortuné Henri, Vigol Meireda, Charles Malato, Georges Pioche, étaient des habitués du repère. Manquant continuellement de fonds, le journal paraissait irrégulièrement et souvent Matta exprimait les craintes les plus sombres, disparition définitive. Il répondait aux doléances et aux menaces en nous mettant les bilans sous le nez et en nous proposant, pour exemple, ceux qui avaient été jusqu'à donner leur vie pour l'idée, pour la cause. Malgré tout, l'espoir de réformer le monde ne nous abandonnait pas. Nous nous sentions animés d'une foi capable de nous imposer les plus grands sacrifices. La presse bourgeoise, nous disait un soir Matta, et la dépend Ravachol comme un monstre, comme un vil nécrophore. Alors que Ravachol était un brave cœur, un brave type qui nourrissait par son travail sa mère et son jeune frère. C'était un être courageux, simple, désintéressé. Un matin, continua Matta, les journaux relatèrent le décès d'une bourgeoise de la haute. On racontait qu'à la prière de la défunte, les maris l'avaient fait enterrer avec tous ses bijoux. Il y en avait pour 60 000 francs. 60 000 francs de perdus pour tout le monde. 60 000 francs enterrés inutilement avec cette morte. Cela révoltait l'esprit logique de Ravachol. Il dit simplement « Je vais aller les chercher ». Sans tarder, il se renseigna, eux, le lendemain, à 2 heures du matin, muni des outils indispensables à son entreprise, il escaladait les murs du cimetière. Il pénétra dans la petite chapelle mortuaire. La pierre du sépulcre n'était pas encore posée. Il descendit dans le tombeau, ouvrit le cercueil. Suffoqué par l'odeur du cadavre, Il mit le feu aux couronnes et aux bouquets. Il écarta les linceuls, il souleva la morte. Les bijoux n'étaient pas là. Les journaux bourgeois avaient menti. Et les maris aussi. Le fauvisme, art anarchiste individualiste, est né à Chatou, école de Chatou, de mes rencontres avec Derain. En 1900, à ma libération du service militaire, des révoltes bouillonnaient en moi. Révolte contre une société enfermée dans ses conventions étriquées, bornées par des cadres étroits, soumises à des lois égoïstes et mesquines. Et le moindre choc, le moindre heurte aurait suffi pour que ces révoltes fissent explosion. La peinture fut une exutoire, un abcès de fixation. Sans elle, sans ses dons, j'aurais mal tourné. Ce que je n'aurais pu faire dans la société, quand j'étends une bombe, ce qui m'aurait conduit à l'échafaud, j'ai tenté de le réaliser dans l'art, dans la peinture, en employant du pur couleur sortant de leur tube. J'ai satisfait ainsi à ma volonté de détruire, de désobéir, afin de recréer un monde sensible, vivant et libéré. Quand on tue un poulet pour le manger, on ne l'insulte pas. Il y a des mauvais goûts de faire croire à la Société des Nations que c'est le poulet qui a commencé. Le progrès a amené l'homme de 1936 à un tel degré d'abrutissement que l'équipe gouvernementale comporte un ministère dit des loisirs, du tourisme et des sports. la Société des Nations, la conférence du désarmement, une équipe d'ingénieurs, de techniciens, qui imaginent qu'en boulonnant les couvercles de cette immense marmite qu'on appelle le monde, elle n'éclatera pas, même si on la laisse sur les brasiers des usines. Tout travail est fait en série est belliqueux. Une nation qui se flatte d'avoir la paix, pour idéal, ne peut pas être une nation industrielle. Une nation pacifiste ne peut être qu'une nation de poètes, d'artistes, d'artisans ou de sauvages. Une guerre européenne serait évidemment la fin de la civilisation occidentale. Une guerre n'est pas souhaitable, certes, mais la fin de cette civilisation mécanique, avec tout ce qu'elle comporte d'avidissement, ne serait-elle pas un bienfait pour l'homme? Au temps de l'esclavage, les captifs aspirant à la liberté. En 1936, époque des progrès et des chances, tout ce que les hommes revendiquent, c'est le droit d'être enfermés pendant 40 heures par semaine pour faire un travail idiot. Définition du bourgeois. Le bourgeois est celui qui pense que l'épaisseur de son portefeuille mesure sa supériorité et son intelligence. Chaque ouvrier est un bourgeois en puissance, en formation, assurance sociale, assurance maladie, retraite. Comme idéal suprême, une chambre à coucher, un faux bois, des tapis en fausse laine, des robes et des bas en soie artificielle, des bijoux en simili et des bibelots à prix unique. Qu'est-ce que le communisme? Et j'ai demandé d'un air innocente à un ouvrier syndiqué. Parbleu, la révolution sociale. Je lui ai pas demandé si elle serait aérodynamique. Pendant mon séjour aux usines, j'ai pu constater combien la classe ouvrière, fabriquée, malaxée par le milieu et l'ambiance, était standard. Comme un pain de 4 livres rassemble un autre pain de 4 livres, un ouvrier rassemble un autre ouvrier. La classe bourgeoise est désemparée à la perspective d'une révolution qui la dépouillera de son argent. Il n'aimait que l'argent, il ne voyait que l'argent, il ne comptait que sur la puissance de l'argent. L'argent s'écroulant, s'évanouissant, que va-t-il lui rester pour vivre? Il avait bâti son existence sur l'argent. L'argent était le but de sa vie, son idéal. Les bourgeois ne croient plus en Dieu. Il va encore à l'église, à la messe, pour remplir un rite obligatoire de sa condition. Mais si l'argent n'existe plus, s'il n'a plus les moyens d'en s'enrichir, que fera-t-il de sa vie? Il est plus facile de devenir un technicien, un érudit, que de connaître la vie avec tout ce qu'elle comporte. Il faut beaucoup plus de volonté, d'intelligence, de compréhension pour labourer la terre, quand on a les moyens de ne pas la labourer, qu'il ne faut justifier d'authentiques qualités pour devenir avocat, médecin ou ministre. Quand ils prêchent le désarmement, les pacifistes en parlent comme les curés parlent du péché, de l'enfer et du paradis. Il n'est question dans leur discours que des canons, des tanks, des mitrailleuses et d'avions de bombardement. Pourquoi oublient-ils les principales? L'accroissement de la natalité de certaines puissances, les usines d'auto, des produits chimiques, d'avions de tourisme et même les fabriques des couteaux à dessert et des cuillères à café. Des armées, oui, mais désarmer la vie moderne. J'ai toujours été, depuis mon jeune âge, fixé quant à mes goûts, mes inclinations, mes sympathies. J'ai laissé aux autres, et sans regret, l'envie de ce que je n'aimais pas et de ce qu'ils adoraient. Je n'ai jamais voulu qu'une chaumière, une vraie femme, des arbres fruitiers, un petit bois, une rivière, pas des livrets militaires, de fleurs et des bêtes. Comme c'est l'idéal le plus vrai, le plus réel, le plus simple depuis le commencement du monde, ce n'est pas très commode à réaliser. Ce petit homme passe devant le tribunal correctionnel pour crime de défaitisme et attentat au crédit de l'État. 100 francs d'amende et 8 jours de prison, prononce le président. Mon président, dit l'accusé d'une voix douce, vous pouvez me condamner à 100 francs d'amende et 8 jours de prison. Mais il n'est pas en votre pouvoir de me condamner à être un imbécile. Parfois, à travers des verdures d'un vert pâle et indéfini, on aperçoit un château. Ce sont les fameux châteaux de la Loire que les panneaux réclament. Le ministère des Loisirs et du Tourisme et les guides vous invitent à visiter. Quel grand air vide! Quel froid inouï se dégage de tout cela! Quel concours de richesses inutiles! Ces châteaux ont un destin amer. Ils deviennent des sanatoriales, des maisons de retraite pour vieux domestiques, vieux cabotins, vieilles concierges, vieux intellectuels. Quand l'homme aura retrouvé sa vie d'homme, qu'il aura refusé de produire 40 heures par semaine, les usines deviendront des refuges pour vieux exploiteurs, patrons séniles, techniciens gâteux, ouvriers pâles et syndiqués. Si une nouvelle guerre éclate, pourra-t-on parler encore sans rire ou sans pleurer des bienfaits de l'instruction, du progrès et de la civilisation? Les marasmes dans lesquels se débattent toutes les branches de l'activité humaine n'est pas une crise, c'est un aboutissement, un résultat. Où va la peinture? L'art n'ayant par principe aucun but, la peinture n'a jamais à aller nulle part. Elle n'a pas à devenir autre chose que ce qu'elle est, une manifestation individuelle. Si aujourd'hui se pose la question de l'avenir de la peinture, les peintres en sont responsables qui ont fait de la peinture un métier. Ce qu'il faut plutôt se demander, et franchement, c'est ce que vont faire les peintres. Être artiste peintre ne constitue pas un métier et n'aurait jamais dû être considéré comme tel. Engager les artistes à peindre des travailleurs pendant la période révolutionnaire et à portraiturer des dictateurs pendant l'ère fasciste et des généraux pendant l'ère guerrière, c'est un point de vue. Leur faire décorer les mairies, les écoles, les maisons du peuple à l'avènement du communisme, des palais, des châteaux sous les règnes des aristocrates et des rois, c'est une manière d'en sortir, et, si c'est possible, d'en vivre. Mais alors, avec de telles conceptions, qu'on ne vient plus nous parler d'art. Attribuer à la peinture un but, c'est aussi puéril que d'en attribuer un au chant du rossignol. Je désire que tout le monde vive, que chacun mange et boive à son sol. Mais quand on s'engage dans une voie aussi fragile, aussi peu sûre, dans un chemin aussi en dehors que la peinture, ne doit-on pas en accepter tous les risques avec dignité et abnégation? Avant l'industrialisation, avant les règnes de la machine, tout ce qui envisageait ou embrassait aujourd'hui la carrière des peintres avait leur place dans l'artisanat. Avant que la machine ne les ait remplacés, ils exécutaient des tapisseries, des meubles, travaillaient la pierre, le bois, forgeaient le fer, ayant toujours placé la peinture au-dessus des contingences matérielles. J'ai fait tous les métiers pour gagner ma vie, mais je n'ai jamais fait de la peinture un métier. On termine cette première partie. Je fais un petit commentaire. Je trouve super important qu'une artiste complètement capable de se rendre compte de l'importance de l'art, parce qu'avec l'art, on peut rejoindre n'importe qui, n'importe où dans le monde, parce que l'art, c'est en effet un langage universel. Mais cette personne-là, il a écrit tout ce que son âme il lui disait, et il a sorti des phrases, des extraits très forts, très marquantes, c'est vrai, peut-être cyniques, mais moi j'ai dit hyper réaliste, et c'est pour ça que je vous invite tous et toutes à nous rejoindre la prochaine fois pour écouter la dernière partie de cette petite brochure. À la prochaine fois. Ciao, ciao !